Bonjour à tous, bonjour à toutes. Sous les tilleuls de Mervelier, on respire le bonheur du Valterbi. Para 2, troisième heure, réalisée en collaboration avec la SRT du Jura et la complicité très active de Jocelyne Farine et de Michel Champion. De Jocelyne Farine, plus particulièrement pour parler de la rénovation des vieux meubles avec Lucie Biderman et Rosemary Studer. Et de Michel Champion, parce que, bien sûr, les coccinelles, le cœur des coccinelles, est bien là, sous la baguette et sous les yeux d'Étienne Joliat. Et puis on parlera du fromage à la ferme avec Bernard Poitvaux, de l'avenir du cheval avec le vétérinaire cantonal, le docteur Joseph Anaheim. Et nous terminerons avec un petit clin d'œil sur le patois avec Marius Marquis, qui est un retraité ici à Mervelier. Et Mousse Boulanger déjà se prépare à vous faire entendre le son des patois jurassiens. Mais pour bien commencer cette deuxième heure de Para 2 en direct de Mervelier, le concours. Le concours dont la corbeille est toujours plus importante, car il y a des choses qui s'ajoutent au fur et à mesure. Ce matin, nous avons reçu pour chaque corbeille 10 bouteilles de bière de la brasserie Vartec, qui vient s'ajouter à ce que j'ai déjà annoncé ce matin, c'est-à-dire les dons offerts par l'Office du tourisme jurassien. Il est 2h à Mervelier, vous l'entendez, les cloches de l'église voisine sonnent. Et puis, il y a un livre, Le Jura à table, du très regretté Jacques Montandon. Il y aura même un abonnement de 3 mois au journal Le Démocrate. Enfin, de quoi vous réjouir, en plus un objet en céramique de la poterie Cisa de Bonfol. Alors, attention à notre question qui s'adresse à tout le monde, y compris les jurassiens, même si la question est très simple. À qui a appartenu notre canton de 999 à 1792? Je répète la question. À qui a appartenu notre canton de 999 à 1792? Il faut que vos questions nous arrivent au 021 21 75 77. Et pour bien attendre, nous avons imaginé de vous faire participer à la joie et à la présence du cœur, la coccinelle, sous la direction d'Étienne Joliat, qui est instituteur secondaire à Courandelin. Il a réuni ses 30 enfants sous les tilleuls de Mervelier pour vous chanter la terre jurassienne de Paul Misch. Si le son n'est pas tout à fait ce que vous souhaitez, il y a l'atmosphère qui compte. Alors attention, c'est la terre jurassienne de Paul Misch. On est en train de donner la petite note pour que tout le monde puisse chanter juste.
Thank you.
oui. Eh bien oui, il y a du public sous les tilleuls ici à Mervelier. Il y a la petite rivière, la Cheule, qui coule tout près de chez nous et qui nous tient compagnie. Et vous venez d'entendre les coccinelles, le cœur de l'instituteur Étienne Joliat dans la terre jurassienne. Alors que je vous le dise aussi, grâce à la présence de François Schuller, Françoise Rossi et Louisa Pernet, tout se passe très bien ici car il faut beaucoup de compréhension et d'entraide pour réussir notre parade en direct de Mervelier. Et il faut aussi dire que le concours va bon train car la deuxième corbeille sera attribuée à Madame Mariette Audier, 2503 Adienne, 23 Chemin des Aulnes, car elle a su répondre à qui appartenu le canton du Jura de 999 à 1792, à l'évêché puis au prince-évêque de Bâle. Voilà qui est fait. Demain matin, il y aura un autre concours. Et maintenant, Mousse Boulanger, je crois qu'il est temps d'aborder le premier paragraphe de notre rencontre de cet après-midi.
Eh bien oui, le premier paragraphe, c'est Madame Rosemarie Studer et Lucie Biedermann que tout à l'heure j'ai rencontré sous le titre des vieux meubles. On ne peut pas dire qu'elles aient l'air de vieux meubles, mais enfin, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous faites avec les vieux meubles?
On a commencé d'essayer de les rénover, les vieux meubles. On ne savait pas trop quoi en faire. Pendant plusieurs années, ils avaient séjourné au fond des vieilles granges, tout en haut des galetas. Ils étaient recouverts de poussière, quelquefois ils étaient bancals. On ne leur accordait vraiment plus aucune importance. Grâce à la vulgarisation ménagère rurale, qui a organisé, dans le cadre de la formation pour les paysannes, des cours d'hiver, on a eu l'occasion de participer à des cours de vulgarisation, donc, qui étaient justement la rénovation de nouveaux, de vieux meubles.
Pardon. Parce que vous êtes paysannes toutes les deux.
Nous sommes paysannes toutes les deux, oui.
Et mère de famille.
Et mère de famille.
Et vous trouvez le temps de faire de la peinture sur les meubles, de les restaurer et de remettre des pieds, de recoller des boutons?
Pour des choses comme ça, on trouve toujours le temps, je crois, parce qu'on y prend vraiment plaisir.
Moi, je voulais vous demander à ces charmantes dames ici, à quel rythme de travail? Est-ce qu'elles font ça régulièrement, ou bien c'est tant d'heures par jour, ou bien c'est selon l'inspiration?
C'est plutôt selon l'inspiration, et puis suivant les saisons. Il y a quand même des saisons où on peut
prendre plus de temps,
qui se prête mieux.
Oui, oui. Et puis, à quel genre de meubles vous donnez la préférence en général? Est-ce que c'est des grands meubles, ou c'est des plus petits objets?
Des grands, des petits, plutôt à des meubles campagnards qu'on trouve chez nous, dans nos maisons, quoi.
Ça va de la grande
à la main, on n'achète pas des vieux meubles, on prend les meubles qu'on trouve chez nous. Ça peut aller de la grande armoire, au bahut, au vaisselier, à la commode, à la chaise.
Alors disons, est-ce que vous utilisez des décapants spéciaux, ou bien est-ce que, quelle est un peu votre manière d'approcher le bois? Et quel est le bois qui se prête le mieux à ce genre de manipulation?
Alors, il y a plusieurs manières de rénover les vieux meubles. La première chose à faire, il faut examiner la nature du bois, voir si c'est massif ou si c'est collé. Ce qu'on a surtout traité, c'est le sapin, comme je l'ai dit avant, quoi, les meubles qu'on a chez nous. Pour ces meubles-là, on emploie un décapant qui se trouve sur le marché. On prend ce décapant, puis après il faut bien lessiver, il faut laisser sécher assez longtemps, il ne faut pas avoir peur de laisser sécher de 10 à 15 jours.
10 à 15 jours,
oui. Puis après, il faut poncer. Alors là, c'est un travail de patience, de longue haleine. Tu demandes
des biceps.
Il faut de la force. Oui, alors. Il faut de la force, c'est pour ça, hein, pour les travaux de la ferme et puis pour vos loisirs. Enfin, je trouve que c'est merveilleux. Est-ce que vous avez beaucoup de compagnes? Donc, vous avez parlé tout à l'heure de cours de vulgarisation. Est-ce qu'il y a plusieurs paysannes jurassiennes qui s'intéressent à cette restauration des vieux meubles?
On a commencé le cours, on était peut-être une dizaine de paysannes.
Ah oui, mais toi tu parles dans le cadre de notre section à nous. Mais sur plan Jura, par exemple, les cours ont aussi été donnés. D'ailleurs, ils ont commencé avant Delémont. Là, il y a aussi beaucoup de paysannes qui s'y sont intéressées et qui ont certainement fait de très belles choses. Bon, nous, on a eu le cours. À ce moment-là, tout le monde était, on peut dire, presque imprégné du feu sacré, parce que chacune avait sorti de ses greniers donc les vieilles choses. C'était en général toujours des choses assez simples. On a rarement vu vraiment des meubles vraiment d'un prix. Mais enfin, le prix pour nous, je crois qu'il était plus dans ce qui nous rapportait du passé. Parce qu'on s'est peut-être marié à une période où on en avait eu marre des vieux meubles vermoulus dans lesquels on avait vécu. Et bon, donc quand on s'est marié, on a voulu avoir du propre, du neuf. Mais
du finlandais.
Voilà. Et on a acheté, je ne dis pas en général, mais enfin, beaucoup de gens de notre âge ont souvent acheté des meubles modernes, mais qui étaient absolument carrés, on peut dire. Et c'est peut-être au cours des années qu'on a redécouvert que dans les lignes, dans le vieux style des meubles qui avaient du passé, justement, qui nous racontaient presque un peu leur histoire, on leur a découvert quelque chose, franchement. Mais je pense quand même que c'est grâce un peu à ces cours-là et aux discussions qu'on a eues donc, entre paysanne et monitrice spécialement, qui nous ont aussi un peu insufflé de leur goût pour ces choses-là, même si on l'avait déjà un peu.
Alors, en somme, vous redonnez une nouvelle âme à ces vieux meubles voilà. Qui, du passé, enfin, vous leur redonnez un nouveau vernis, vous leur redonnez du neuf, et enfin, vous êtes attaché à toute cette tradition qu'ils renferment, oui. Et à tout ce oui. Passé, vous êtes fidèle. Maintenant, je vous demande, est-ce que vous attaquez par hasard aussi aux meubles modernes? Est-ce que vous voulez passer aussi par là, ou bien c'est seulement les vieux meubles?
Non, jusqu'à maintenant,
non,
je pense.
Non, c'est les vieux meubles.
Bon,
qui...
mais n'allez pas croire non plus que... nous avons rénové de fond en comble tout ce qui se trouvait dans les maisons. Moi, je pense surtout, en tout cas pour plusieurs d'entre nous, le cours s'est arrêté à la fin. Donc, le travail s'est arrêté à la fin du cours. On avait fait les objets qu'on désirait rénover, on voulait essayer. Pour certaines, ça s'est arrêté là. Pour d'autres, par contre, elles ont vraiment pris ça à cœur et elles ont continué.
Alors justement, on voit des peintures, ces peintures paysannes, par exemple, de magnifiques bouquets de fleurs et autres. On voit certains meubles qui sont peints avec un vert un peu bleuté et ils sont faits de magnifiques bouquets, des gerbes, il y a des épis de blé, enfin, il y a vraiment quelque chose de merveilleux. Est-ce que vous avez été plus loin que la restauration du meuble proprement dit? Est-ce que certaines d'entre vous, peut-être pas vous, se sont attaquées à la peinture, à redonner vraiment tout un chic, un aspect nouveau à ces vieux meubles dans le sens de peinture?
Il y avait aussi eu un cours justement pour la peinture sur bois. Nous personnellement, on ne l'a pas suivi, mais je sais que ça s'est fait.
Regardez, quand on parle de restauration de meubles, une chaise que vous trouvez dans votre grenier, vous arrivez à remettre un pied?
Ah non.
Non, on passe vraiment chez l'ébéniste, il y a un pied à changer, tout ça. Non, nous, on nettoie le meuble et puis on lui redonne une teinte.
Ça,
on le remet au propre.
Vous le nettoyez, vous le rendez brillant, vous le briquez un peu.
Voilà,
et ça. Vous faites en sorte qu'on puisse à nouveau l'utiliser.
Oui.
Et vous les utilisez, ces meubles-là?
Oui, absolument. Tout à fait.
Absolument.
C'est ce qui nous font le plus plaisir.
Quand j'ai remarqué des vieux meubles qui étaient donc dans le grenier chez mon mari, et on leur a donné, disons, une nouvelle âme. Il y avait du merisier, il y avait du cerisier. Puis quand on les regardait, on passait à côté avec un peu de dédain. Et finalement, quand on les a vus qui trônaient au milieu d'une superbe salle à manger, on me disait, vraiment, c'est quelque chose. Ils ont peut-être 200 ans, mais c'est magnifique. Hein. Et alors, je pense que vous avez un intérieur là qui vous parle, qui a tout un message. Quand on se dit, il y a peut-être une grand-mère qui a vécu, il y a toute une famille, il y a toute une génération qui a peut-être posé différentes choses sur ce meuble, sur cette table ou sur cette desserte. Et je crois que c'est merveilleux quand même ce retour aux sources. Moi, je félicite, disons, vos initiatives et, disons, je pense, vos monitrices qui ont su vous redonner ce goût de la tradition et ce respect tout de même du vieux meuble et de remettre ça dans la vie de tous les jours. Et je crois que c'est important que les nouvelles générations se souviennent qu'avant eux, il y a eu quelqu'un qui a utilisé cela, parce que je me souviens, on se disait, bon, c'est vieux, on passe ça loin ou on le brûle. Et maintenant, je crois que c'est revenu au goût du jour. On découvre qu'il y a une âme, qu'il y a un passé là derrière. Et moi, je vous félicite de votre activité et je vous engage vivement à continuer.
C'est Jocelyne Farine qui vient de faire ce merveilleux panégyrique du meuble jurassien. Y a-t-il un style particulier dans le Jura?
Il y a le style jurassien, oui. On retrouve un petit peu les mêmes décorations sur toutes les armoires, les secrétaires, tout ça. C'est vrai qu'il y a un style vraiment d'ici. C'est très simple, hein, c'est très simple. Une petite garniture dans le haut.
Et en général, c'est simple. C'est du sapin.
C'est du sapin, il y a beaucoup de sapin, oui.
Et les meubles sont droits?
En général, oui. Mais je crois surtout que les personnes qui ont suivi les cours de peinture sur bois. Donc, puisqu'il y a eu des cours quand même dans le cadre de la profession qui ont été organisés, il y a plusieurs personnes qui les ont suivies, celles qui ont su donc mettre ça en valeur sur les meubles qu'elles venaient de décaper elles-mêmes, alors ça donne vraiment un résultat magnifique.
Il vous arrive de faire des expositions de ce que vous avez rénové?
Non, ça non, c'est exposé dans notre intérieur.
Alors je pense qu'il faudra vraiment une fois hein, prendre le temps de venir chez Rosemarie, voilà, et chez Lucie, et puis venir voir tous ces vieux meubles. Hein.
Et voilà, bien voilà.
Après l'émission.
Voilà, vous savez d'accord.
Vous savez tout sur la rénovation des vieux meubles grâce à Lucie Biderman et à Rosemarie Stauder. Et puis je vous signale en passant que même à Mervelier, on entend des avions. Et puis les tracteurs qui passent, bien ça fait partie de la vie campagnarde, de la vie agricole ici à Mervelier. C'était le groupe champêtre de Halle, toujours de la musique jurassienne pour Part à deux en direct de Mervelier. Nous parlions tout à l'heure, Mousse Boulanger, de la rénovation de vieux meubles avec deux charmantes femmes paysannes. Et maintenant, c'est au tour d'un charmant monsieur, chevelu et barbu, Bernard Froidevaux.
Avec des yeux bleus, ma chère.
Toujours, on est vraiment confondu par des yeux bleus ici. Pour nous parler des fromages de la ferme.
Oui, tout à l'heure j'ai goûté un fromage de la ferme, j'en ai même goûté deux, et j'avoue que j'ai complètement englouti le petit fromage de chèvre, qui n'a d'ailleurs pas été fait par vous-même, Bernard Froidevaux, mais par votre petite nièce. Comment est-ce qu'elle s'appelle ?
Raphaël.
Raphaël. Et c'est Raphaël qui a été chargé de faire le fromage de chèvre. Comment est-ce que se passe pour faire un petit fromage de chèvre ? Il faut dire qu'il était tout à fait frais.
Oui, c'est tout simple, il suffit d'avoir du lait de chèvre. Et tout de suite après la traite, de le mettre en présure, on attend quelques heures et le lait est encaillé, on le met dans des petites faisselles et on le laisse poser quelques heures aussi, 12 heures, comme ça quelque chose. Et puis on le sale et on l'emballe, il est prêt à le manger comme vous l'avez goûté tout à l'heure.
Et vous avez parlé de petites faisselles, il faut peut-être expliquer que ce sont des petits récipients avec
oui,
des petits trous.
Voilà, des petits moules.
Voilà, des petits moules et que tout cela, le petit lait s'écoule. Et le petit lait, vous le recueillez ou vous l'abandonnez?
Oui, on le recueille et puis nos corps s'en régalent à longueur d'année par
perdu,
dizaines
hein
de litres.
C'est merveilleux. Vous avez apporté sur la table, nous avons la chance d'avoir des échantillons de votre production. Il y a donc du fromage à pâte molle, du fromage à pâte mi-dure et
du serré,
du serré
des yaourts.
Et des yaourts. Alors, parlons peut-être du serré que j'ai goûté également, comme une grande gourmande, et je me réjouis de goûter la suite. Alors, votre serré, il est là, nature, absolument nature.
Oui, nature.
Et ça, c'est fait avec du lait de vache.
C'est fait avec du lait de vache pur et une fermentation tout à fait naturelle, c'est-à-dire qu'on n'y ajoute absolument rien. On laisse simplement le lait cailler naturellement. Et au bout de quelques temps, suivant les saisons, un jour ou deux, on peut le mettre dans un sac de toile. Et là, on le pend et il s'égoutte gentiment jusqu'à ce qu'il ait pris la consistance que vous avez là dans le pot. C'est aussi simple que ça.
Il y a tout de même un petit mystère, parce que moi, ça m'est arrivé d'essayer de faire ce que vous venez de dire, et mon céré devient amer.
Oui, chez nous aussi, ça arrive de temps en temps. C'est une question de qualité du lait, surtout. Si vous avez une bonne qualité de lait, il y a une fermentation lactique qui se fait très bien, et votre céré sera délicieux, naturellement, sans autre.
Alors, ce sont vos vaches que vous utilisez?
Oui, on a
le lait de vos vaches.
5 petites vaches. Mais enfin, avec ça, on arrive bien à faire différents produits.
Quoi. Comment est-ce qu'on peut savoir quelle est la bonne qualité du lait?
Eh bien, avec la bonne qualité d'un produit, si on veut bien, c'est la meilleure garantie, c'est le produit fini qui vous dit si le lait était de bonne qualité ou pas. Autrement, il y a tout un tas de tests qu'on peut faire, qui va de la vue, de la dégustation, en passant par des tests chimiques ou des choses comme ça.
Moi, je voulais vous demander à quel rythme de production vous produisez vos succulents fromages. Moi, ils ont une odeur alléchante, on va se réjouir après. Hein,
ah oui,
les déguster un peu. Alors, à quel rythme de production?
Eh bien, on fabrique tous les jours, tous les matins.
Vous êtes tout seul ou bien
non,
vous avez de
l'aide? On a une famille, on est donc un couple, une petite fille. Et...
Petite fille, mais c'est merveilleux.
Ah, ça, c'est la nièce.
Hein. Oui.
Et on a un aide ou deux aides suivant les circonstances, comme ça se présente. Ce sont des jeunes gens qui viennent faire des stages chez nous pour apprendre à fabriquer.
Alors, comment vous écoulez vos produits?
Alors, on écoule tout directement, donc à la ferme ou sur les marchés, sous ce qu'on peut appeler un marché à Seigne-Légier, où le Noirmont, j'ai des clients, et, enfin les villages environnants, quoi. Et c'est avec ça qu'on arrive, comme ça qu'on arrive à écouler tous nos produits.
Bah, disons, moi, je me sens un tout petit peu frustrée parce qu'à Delémont, je ne vous ai encore jamais vu au marché. J'aimerais bien vraiment que vous fassiez connaître vos fromages. Je suis persuadée.
Une petite production, malgré tout, on n'a que 5 vaches et puis ça ne suffit même pas à satisfaire les bouches des Franches Montagnes.
Ah, voilà. Alors,
vous arrivez à suffire à vous-même et à votre famille avec la production que vous faites de votre fromage dans votre ferme.
En vivant très simplement, on y arrive, oui.
Et pourquoi vous avez choisi cette vie d'abord, Franck?
Eh bien, parce que j'avais... L'occasion s'est présentée, disons, de reprendre cette ferme. C'était un vieux rêve que j'avais abandonné depuis longtemps, parce que je pensais que c'était impossible de racheter un jour une ferme, mais là, ça s'est présenté dans le cadre de la famille. Et puis, j'étais dégoûté un peu de mes précédents travaux, et la vie de fonctionnaire en particulier ne m'attirait pas beaucoup, et puis j'ai décidé de revenir un peu...
À la terre.
À la terre, oui.
Et vous pratiquez l'agriculture biologique?
Oui, oui. Nous avons une ferme en biodynamie depuis cette année, elle est en biodynamie. Auparavant, on était en biologie, simplement. Et
qu'est-ce que ça veut dire, être en biodynamie?
C'est une méthode, donc, inspirée de Rudolf Steiner, qui nous donne tout un tas de directives... En ce qui concerne la fabrication des composts, les soins qu'on peut apporter à la terre, aux animaux, aux céréales. C'est très complexe. On est loin d'arriver à tout dominer, mais enfin, c'est intéressant, c'est passionnant. Ça donne un autre aspect que ce qu'on nous apprend à l'école d'agriculture ou comme ça.
Alors, j'ai une question qui m'a été soufflée par le vétérinaire. Comment est-ce que vous nourrissez vos vaches?
Eh bien, les vaches mangent d'abord l'été de l'herbe du pâturage, et puis on la complémente par un peu d'herbe qu'on va faucher une fois par jour. Et puis l'hiver, on a du foin et du regain. Et puis, suivant les années, on va complémenter par une farine d'orge ou des tourteaux ou du son. Enfin, ça dépend un peu la nourriture de base, la qualité de notre foin, de notre regain. Et puis, voilà.
Alors, vous évitez autant que possible une alimentation artificielle?
Oui, on évite absolument tous les aliments préparés à base de concentré, par exemple, très riches en protéines. On évite ces produits-là parce qu'il nous semble qu'ils forcent les animaux à une production anormale. Alors bon, on a une production parfois un peu plus faible, mais... On y gagne en qualité, on le retrouve par exemple dans les rendements et dans la qualité des produits. Ça, c'est une chose.
Votre fromage mi-dur, qui est là, cette pâte un peu molle, comment est-ce que vous l'appelez?
On ne lui a pas encore donné de nom. Si vous voulez, on peut essayer ensemble.
Alors moi, j'ai trouvé tout de suite, on va l'appeler Le Merveilleux.
Le Merveilleux.
Puisque nous sommes la Merveilleuse.
Peut-être.
Et la tome, on peut appeler ça une tome.
Oui, celle-là, elle a un nom qui est venu tout seul, parce qu'on me surnomme La Fleur depuis très petit, depuis l'âge de 7-8 ans. Et puis c'est devenu la tome à la fleur, et là, petit à petit, la tome la fleur, voilà.
La tome de la fleur.
La tome
de la fleur. C'est enchanteur, comment.
Oui, assez. Hein? C'était prédestiné, je pense.
Ah, voilà. Il y a une fabrication spéciale pour cette tome-là?
Spéciale, non. Elle est inspirée, disons, d'une vieille recette qu'un ami avait retrouvée chez sa grand-mère, qui pratiquait ça aux Franches-Montagnes, d'ailleurs. Lui-même l'a pratiquée en Ajoie. Et puis, je l'ai reprise. Et puis je l'ai adaptée un peu à mes goûts, c'est-à-dire qu'elle est très proche du reblochon par la méthode de fabrication, mais on arrive à faire une pâte un peu plus coulante, un peu plus parce que on peut la vendre nous-mêmes, tandis qu'un grand magasin peut pas se permettre d'avoir un fromage qui coule dans le papier.
Et Bernard Froidevaux, vous nous avez apporté une dernière fleur. C'est le yaourt que vous faites vous-même également. Voilà. Est-ce que... J'ai pas encore goûté celui-là. Il a un goût particulier.
Bien, un goût... Oui, il est bon en général. Un goût particulier, non? Il sent bien le yaourt.
Il a l'air un peu liquide.
Oui, c'est seulement le tour parce qu'il a voyagé. Hein. Mmh. Mais on a... Contrairement, par exemple, au yaourt qui est fait dans le commerce, on n'ajoute pas de petit lait en poudre, par exemple, pour justement qu'il soit solide. Alors, bon, ça peut arriver qu'en voyageant, il y ait un petit peu d'eau, mais relativement peu. Et ça nous... Disons, c'est un peu une fierté qu'on a de pouvoir faire un yaourt différent de celui du commerce.
Alors, vous savez que le yaourt permet aux gens de devenir très, très vieux, de vivre jusqu'à 150 ans, paraît-il, quelque part dans les Bulgaries ou le Caucase. Est-ce que c'est le cas en Franche-Montagne?
Je ne sais pas. On n'a pas encore assez de clients qui nous demandent le yaourt pour pouvoir le tester à ce point-là.
Eh bien, je pense, Bernard Froidevaux, que vous êtes un homme heureux, qu'à votre retour à la Terre, vous permet enfin de faire ce que vous aimez.
Merci. Ah, oui.